Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de notre format « Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre ?» dans lequel on met en avant trois faiblesses pour chaque équipe qualifiée, soit au play-in, soit pour les playoffs. On vous a déjà parlé des Bulls, des Hawks et des Kings. Place aux Pelicans. Pour ce faire, j'ai avec moi le petit prince du podcasting NBA FR, Constant. Comment ça va, Constant ?
Oh, le petit prince, alors je m'attendais pas à cette introduction hein, pour le coup. Non, bah ça va, on va parler d'une équipe que j'aime bien, en plus les Pelicans, donc je suis content de parler de cette équipe avec. Je sais que c'est pas une équipe qui a le plus de fanbase la plus étoffée en France, même au niveau des gens, je sais que dans la conve de Kebdo, tout le monde n'est pas fan des Pelicans, mais moi j'aime bien cette équipe, donc content d'en parler.
C'est vrai, alors en théorie, tout le monde est plus ou moins content de parler de l'équipe dont il va parler, parce qu'on s'est laissé les choix. On n'a pas imposé les équipes. Et effectivement, je pense qu'au niveau des Pelicans, on devait être sur une des franchises qui avait le moins de potentiel acquéreur avec les Hawks et les Nets, peut-être, parce qu'on a fait ça à une époque où les Nets pouvaient peut-être se qualifier. C'est plus trop le cas. En tout cas, avant de débuter, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur Twitter, également sur YouTube. Les plateformes de podcast et YouTube, vous avez remarqué qu'on n'a pas appeler ces émissions « Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre ?» parce que finalement, on s'est ravisé. Et en mettant ça, Constant, je me suis dit « Non, ça pourrait être mal interprété. » Donc, on a parlé de faiblesse, mais le format reste le même hein, par rapport à ce qui avait été présenté dans l'épisode sur les Bulls. Bref, l'intro a déjà assez long comme ça. Constant, tu as donc hérité des Pels. On commence comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous résumer ? Parce que tu l'as dit, peut-être que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas vraiment suivi la saison 2023-2024 des Pels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait du côté de la Louisiane cette année ?
C'est une équipe qui a connu deux saisons, on va dire, comme beaucoup d'équipes. Mais il y a un début de saison, on va dire, qui est un petit peu difficile avec, il me semble qu'il débute en 3 victoires pour 9 défaites sur le début de saison, avec quelques interrogations, notamment autour du poids de Zion lors du fameux in-season tournament du côté de Vegas. On avait quelques reports, on a eu le détail du contrat de Zion disant que sur les futures années, il était soumis à certaines restrictions au niveau de son poids pour avoir de l'argent garanti. Il y avait quelques tensions qui pouvaient naître en interne vis-à-vis de Brandon Ingram, qui n'était pas très satisfait de son rôle, un peu dans le prolongement de ce qu'on avait vu avec Team USA durant la Coupe du Monde, où il semblait pas vraiment être impliqué, un petit peu déçu, on va dire, de devoir partager de nouveau la balle avec Zion. Ça s'est poursuivi à peu près jusqu'à Noël, puisque finalement, les Pels sont en 17-14 à Noël, et à partir de Noël, ils ont le quatrième meilleur bilan de toute la Ligue depuis cette période, derrière Boston, derrière OKC, derrière Denver, et à égalité avec les Clippers. Donc, vous avez remarqué déjà qu'il n'y a qu'une seule équipe de la Conférence S, ça c'est pour la Ligue 2. Mais après, avec une défense qui... une attaque, j'en avais parlé en équipe positive dans le deuxième 4/4 et t'en avais parlé en équipe positive même dans le troisième 4/4, donc on en avait parlé deux fois en bien des Pels pour montrer que c'est une équipe qui vraiment a pris de un coup d'accélérateur, défense qui est devenue très bonne pour des raisons parfois un peu Luke Skywalker-esque, on va dire, on en parlera après. Et puis après, en attaque, le retour de Trey Murphy qui a commencé à remettre un petit peu dedans. Puis surtout, la complémentarité entre Zion, McCollum et Brandon Ingram, la synergie entre les trois qui s'est bien développée. Donc oui, c'est une équipe qui a su se relever et qui a su peut-être un petit peu dépasser ce qu'on aurait pu attendre d'elle cette saison, en tout cas au niveau du classement. On va voir comment ça va se poursuivre avec la blessure de Brandon Ingram qui va louper 2 semaines. Mais c'est une équipe, oui, qui pour moi a su se relever après un début de saison pas simple et après ce qui s'était passé l'an dernier suite à la blessure de Zay.
C'est vrai que en lisant 2-3 interviews en préparant l'émission, rappelons quand même que le présentateur dans ce genre d'émission est un peu en retrait. Constant, tu as tout le loisir de partir en monologue sur les Pels. Il y a le in-season tournament a l'air de les avoir un peu marqués. Parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de reports comme quoi ils ont été un petit peu blessés dans leur ego. Et comme tu l'as dit, c'est pas une équipe qui est souvent mise en avant. Donc, le fait d'être à Vegas et de se faire atomiser par les Lakers, je pense que ça a laissé quelque chose, effectivement. On peut aussi parler, alors moi j'aime toujours bien parler des over-under et surtout avec les Pels parce qu'il y a une espèce de blague qui était une running joke sur les Pels, c'est qu'ils n'arrivaient jamais à atteindre leur over-under, c'est-à-dire leur prédiction de Vegas. C'est la première fois depuis 2017-2018 qu'ils vont taper leur over. Quand même, ça fait quand même beaucoup d'années qu'ils n'y arrivaient pas. Et j'ai surtout lu, et ça je pense que ça va être un truc dont on va pas mal parler, qu'on sent, c'est que cette année c'est aussi celle où on a eu des Pels en bonne santé avec Zion et Ingram qui ont enfin pu jouer ensemble. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses pour cette équipe-là.
Bien sûr. Bah déjà, récupérer Zion sur une saison entière, c'est-à-dire que c'est déjà la saison où Zion a joué le plus de matchs de toute sa carrière. Alors oui, il n'a pas une carrière extrêmement productive, mais ah non, il lui en manque deux d'ailleurs. Je dis des bêtises. Il en a joué 61, la 2020-2021, qui était une saison extraordinaire d'ailleurs de Zion, juste avant sa blessure finalement. Et oui, c'est là où tu vois aussi à quel point la NBA va vite, dans le sens où Zion était un peu vu comme le nouveau visage de la NBA avant de se blesser. Encore l'an dernier, il y avait cet aspect où il était très mis en avant, les Pels étaient pas mal diffusés sur ESPN, et tu vois que la blessure de l'an dernier lui a vraiment enlevé tout pouvoir médiatique et tout pouvoir médiatique des Pels. Alors déjà, les Pels ne sont pas une franchise comme les Lakers, comme les Celtics, comme les Knicks. C'est pas un énorme marché, donc pas forcément mis en avant de base. Mais là, tu avais le cas Zion qui pouvait mettre un coup de projecteur. Et même là, Zion a perdu un petit peu en estime auprès des médias américains qui se sont tournés vers Ja Morant il y a de ça 2 ans, Anthony Edwards et Victor cette année. Enfin, voilà, la NBA va très vite. Mais effectivement, c'est une saison en pleine santé parce que l'an dernier, déjà, il y avait la blessure de Zion, puis la blessure d'Ingram. Donc, les Pels ont trouvé un petit peu de continuité. On sait que le staff médical du côté New Orleans a pas mal été modifié cette saison, même au niveau des facilities, donc au niveau des infrastructures, il y a eu pas mal de taf qui a été fait sur ça, donc oui, c'est un point positif, c'est qu'ils ont enfin réussi à être en santé, et dès qu'ils arrivent à être en santé, bah, t'as une équipe compétitive dans une conférence Ouest qui est déjà très compétitive en soi.
Mon mauvais esprit m'amènera à dire que maintenant, du coup, ils nous forcent Anthony Edwards, du coup, en tant que nouveau porte-drapeau, parce qu'il faut bien trouver un Américain. Du coup, donc, ça peut pas être un joueur international. Donc, après nous avoir fait une propagande Zion, c'est une propagande Anthony Edwards. Bref, commençons, Constant. Là, on a été plutôt dithyrambique. Malheureusement, dans ce format-là, on met en avant 3 faiblesses. Et tu parlais de Star Wars et de Luke Skywalker. Donc, qui n'a jamais existé dans les 7, 8 et 9. Hein, ces films n'ont du coup pas existé. Et tu veux nous parler, dans un premier temps, parce que je vais garder la défense un peu Luke Skywalker pour tout à l'heure, d'absence de spacing malgré une belle efficacité de loin. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Constant ?
Bah, en fait, le problème des Pels, c'est que, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est efficace à 3 points. Si tu prends sur la saison, ils sont dans le top 5. Oui, ils sont quatrième même en pourcentage à 3 points. Non, ils sont quatrième depuis Noël. Alors, excusez-moi, je remets la stat. Voilà, ils sont cinquième. Bon, ça valait bien le coup de réinitialiser alors qu'ils étaient à la même place. Non, mais si on prend en tout cas leur fréquence de tir à 3 points, en fait, le problème de ces Pels, c'est que c'est la 25e équipe qui tente le plus de 3 points au niveau de la répartition de ses tirs. Derrière, il y a Philly, Orlando, Détroit, les Lakers et Denver. Voilà. Denver sont fatigants, c'est eux qui tentent le moins de 3 points et c'est encore eux qui vont aller très loin au mois de juin. Ils sont un petit peu fatigants, ces Nuggets. Mais c'est cette problématique, c'est qu'il y a une différence vraiment entre spacing et adresse. C'est que tes deux meilleurs joueurs, que ce soit Zion ou que ce soit Brandon Ingram, sont des joueurs qui ont souvent les mêmes zones sur le terrain, un petit peu à mi-distance, quoique Zion démarre parfois derrière la ligne à 3 points au niveau de ses drives, mais c'est pas des joueurs de gros volume à 3 points. Et surtout, les défenses construisent un mur depuis le retour en grâce de Zion, depuis aller 2 bons mois, depuis le passage à l'année 2024, construisent un mur pour éviter que Zion puisse driver, tout en essayant de limiter les shooters. Sauf que au niveau des joueurs qui sont vraiment capables de sanctionner, t'as Herb Jones, qu'on n'a pas mentionné, mais qui fait une excellente saison, que vous avez mentionné dans le 4 quarts, que ce soit défensivement ou que ce soit en termes d'adresse. Il y a Trey Murphy qui remet un petit peu dedans. Brandon Ingram, finalement, est à droit, mais n'a pas tant de volume que ça. TJ McCollum, c'est du CJ McCollum, donc il est aux alentours de ses 40% à 3 points, il est même à 41% à 3 points cette saison, mais c'est une équipe qui, oui, manque de volume à 3 points et manque de shooter à très très gros volume. C'est pour ça que la réintégration petit à petit, même s'il n'est pas dans le 5 majeur, et le retour d'adresse de Trey Murphy est très important, parce que tu as vraiment ce manque de capacité à faire sortir les défenses au niveau de ton adresse à 3 points, c'est-à-dire que les défenses vont jouer un petit peu le jeu des mathématiques, entre guillemets, ou le jeu des pourcentages, c'est qu'ils vont préférer contenir les drives de Zion plutôt que de sortir sur les shooters. Donc c'est un point qui m'inquiète, c'est qu'ils ont peu de volume à 3 points finalement, malgré une adresse importante, et du coup, je suis un petit peu incertain sur le fait qu'ils seront capables, par exemple, de tenir la cadence offensivement s'ils jouent une équipe à gros volume à 3 points.
C'est vrai que tu l'as dit, c'est le cas alors qu'il y a eu des ajustements, des modifications. On en avait parlé dans le dernier 4 quarts du fait que Herb Jones était devenu un joueur extrêmement adroit. Et malgré ça, il y a quand même cette problématique qui se pose. Alors que quand on regarde un joueur comme CJ McCollum, dans sa répartition de tirs, ça a largement évolué. Il n'a jamais tenté autant de tirs à 3 points de sa carrière. Il en a plus de 50% de ses tirs. Et c'est vrai que c'est un joueur qui devient... En termes de gravité, la gravité qu'il apporte, elle devient, je pense, indispensable pour le Sepals. Et effectivement, face à ce mur, parce que tu l'as dit, alors c'est pas l'équipe que j'ai le plus regardée en étant en toute honnêteté, mais il y a un espèce de traitement Giannis ou un traitement Zion d'il y a quelques années qu'on a déjà vu, où oui, effectivement, il se prend le mur et ça met beaucoup de pression sur les autres. Et tu l'as dit, il y a peu de volume et typiquement, je pense que, je sais pas si tu es d'accord, mais on peut même aller un peu plus loin et dire que c'est une équipe dans une, je sais pas, une orgie offensive, dans un match de play-off, j'aurais quelques doutes sur leur capacité à tenir le rythme dans ce genre de cas.
Oui, et puis c'est surtout le fait qu'ils ont peu de volume et que 50% de leur volume à 3 points repose sur deux joueurs, que sont CJ McCollum et Trey Murphy. C'est-à-dire qu'ils tentent 32 3 points par match, les Pels, il y en a quasi 16 qui sont tentés, que ce soit juste par McCollum ou par Trey Murphy. Donc tu es énormément dépendant de l'adresse de ces deux joueurs-là. Mais on parlera un petit peu de CJ McCollum après. Mais oui, effectivement, après, ce qui est intéressant avec les Pels, c'est que c'est une équipe qui arrive quand même à provoquer pas mal de lancers et qui arrive à provoquer pas mal de tirs près du cercle. Donc, au niveau des points rémunérateurs, ils sont quand même, on n'est pas dans un syndrome, par exemple, à Boston, qui est vraiment le contre-exemple où il y a beaucoup de trois points, il y a très peu de tirs près du cercle et il y a très peu de lancers. Ou par exemple, ce qui est capable de faire Phoenix aussi, qui tente énormément de mi-distance, énormément de lancers, mais peu de tirs près du cercle et peu de tirs à trois points. Donc ils ont toujours un peu cet aspect rémunérateur qui peut potentiellement les aider en play-off à maintenir la cadence face à une équipe qui serait à droite à trois points, mais je reste inquiet au niveau des match-ups parce que tout dépend du protecteur de cercle adverse que tu peux avoir et de l'équipe en face et sa capacité à protéger le cercle. Donc effectivement, il y a un mur autour de Zion, comme tu l'as dit, et à voir si sur certains matchs, par exemple, j'ai souvenir du match, le récent match face aux Clippers, où il y a un mur qui est construit du côté de Zion, mais Zion arrive quand même à attaquer, arrive quand même à driver sur cette équipe et à marquer deux points, parce que la protection de cercle des Clippers est assez mauvaise. Par contre, si tu viens à jouer les Wolves, eh ben là, pour le coup, avec la longueur des Wolves au niveau des ailiers et avec potentiellement ne serait-ce qu'un Rudy Gobert, sans même parler du retour de Karl Anthony Towns, ça va être beaucoup plus difficile de le driver. Même s'ils ont déjà remporté des matchs face aux Wolves cette saison, mais c'était des matchs où ils ont su marquer via leur adresse extérieure. Donc, sur ce point-là, je suis un petit peu circonspect. Je n'ai pas entièrement confiance, on va dire, en la capacité de certains joueurs à continuer cette adresse en play-off. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'adresse de Herb Jones à 3 points. J'attends de voir sur une série de play-offs si l'adresse un peu anormale qu'on a pu voir cette saison, même si voilà, on est sur un échantillon qui est quand même assez élevé, donc on devrait arrêter, entre guillemets, d'être surpris. Je m'attends quand même à voir McCollum et Herb Jones à plus de 42% à 3 points sur une série de play-offs. J'attends de voir.
La passe décisive est trop belle. Tu as parlé de protection de cercle, de protecteur de cercle. Allons-y. Ta deuxième inquiétude, la deuxième faiblesse que tu souhaites mettre en avant, Constant, c'est le manque de protecteur de cercle de ces Pelicans.
Oui, c'est ce que j'appelais un petit peu la défense chevalier Jedi. C'est Nate Duncan, il me semble que c'est Nate Duncan qu'on a parlé le premier, donc je vais lui rendre hommage. Mais non, si vous regardez les stats, en termes de fréquence, bah vous dites, bon, bah en fait, les Pels, c'est la 10e équipe qui concède le moins de tirs près du cercle. Par contre, bon, top 10, Ça, c'est pas mal. Il y a Golden State, Miami, Boston, les Lakers. Il y a Sacramento. Déjà, ça fait se lever un sourcil. Il y a Houston et il y a Utah. Donc, comme quoi, faut peut-être regarder au niveau de l'efficacité des équipes adverses sur les... près du cercle, tout simplement. Et si on regarde l'efficacité, bah, les adversaires, enfin les Pels, ne sont que la 19e défense en termes d'efficacité pour les équipes adverses près du cercle. Donc, ils sont... il n'y a que 10 équipes qui font pire que 10 équipes où les équipes adverses sont plus efficaces au cercle, avec Philly, les Lakers, les Warriors, comme quoi protéger le cercle, bah, c'est pas forcément être plus adroit. Et ça souligne un petit peu ce point-là, c'est que les Pels, leur protecteur de cercle, c'est soit Jonas Valanciunas, soit Larry Nance. C'est un peu faible, on va dire, surtout pour des équipes qui sont capables de driver le cercle. Je pense bah, notamment au Casey qui est capable de driver. Je pense à, même si j'ai souligné le manque d'incapacité à aller chercher des tirs près du cercle, à ce qu'est capable de faire Phoenix avec Bradley Beal qui devient un joueur de drive sur les dernières semaines. Et en fait, cette stratégie des Pels, c'est que en l'absence de protecteurs de cercle d'élite, eh ben, tu vas essayer de boucher un petit peu l'accès à la raquette en mettant beaucoup de personnel entre le joueur et la raquette, ce qui fait que fatalement, tu es obligé de concéder énormément de 3 points ouverts. Et on arrive à cette situation que j'appelle effectivement de défense de Chevalier Jedi, puisque c'est un petit peu une nix de la 2020-2021, c'est-à-dire que si vous prenez les 3 points considérés comme grand ouvert par les équipes adverses, les Pels sont premiers en termes de fréquence, c'est-à-dire que c'est eux qui concèdent le plus de 3 points grand ouvert, et ils sont premiers en efficacité, c'est-à-dire qu'ils concèdent le plus de 3 points grand ouvert, et les équipes sont les équipes qui shootent le moins bien de toute la ligue sur ces 3 points grand ouvert. Donc effectivement, c'est une recette qui est plutôt pas mal pour avoir une défense top 5, c'est que bah, quand tu permets de condenser l'accès à la raquette ou de compenser ton absence de protecteur de cercle en bouchant la raquette et que de l'autre côté, les équipes ne te sanctionnent pas sur les 3 points wide open, et bah là, pour le coup, c'est une recette qui fait que la défense des Pels est capable de tenir sur l'intégralité d'une saison régulière. Alors après, il faudrait aussi voir dans le détail quel type de joueur se retrouve à prendre les 3 points wide open, parce que c'est pas forcément 15 3 points wide open de Stephen Curry ou de Klay Thompson tous les soirs, mais malgré tout, c'est quand même assez paranormal de voir une équipe qui est l'équipe qui concède le plus de 3 points wide open avec l'efficacité la plus élevée. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est quand on est dans des considérations de play-off, les équipes qui vont rencontrer sont parmi les équipes les plus adroites sur les 3 points wide open. C'est-à-dire que dans le top 6, il y a Minnesota qui est à 41% de réussite sur les 3 points wide open. Il y a OKC qui est à 40.8. Il y a Dallas qui est à 40.7. Et après, il y a Phoenix. Heureusement pour eux, il n'y a pas les Clippers. Les Clippers sont moyens. Ils sont à 38%, même si on a l'air de se présenter vers une série potentiellement entre les Clippers et les Pels. Donc moi, c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que on est sur une défense qui s'est construite grâce à sa capacité à protéger le cercle sans être sanctionné à 3 points. On voit typiquement les matchs. Je vais prendre les deux derniers matchs, je vais faire rapide. Je vais prendre les deux derniers matchs des Pels. Dernier match, c'est contre Miami. Ils jouent une zone. Miami est incapable d'attaquer sur la zone. Et c'est une... je sais plus à combien de tirs Miami à 3 points, mais il me semble que c'est 9 sur 32 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une infamie et du coup, large victoire des Pels. Le match d'avant contre Orlando qui n'est pas forcément une équipe très adroite et qui n'est pas forcément une équipe de volume. Ils sont à 14 sur 42, il me semble, ou à 16 sur 42 à 3 points. Et là, tu as une victoire de plus 20 du Magic. Donc, je trouve que au niveau de la variable des 3 points wide open, de toutes les équipes dont on va parler, en tout cas dans le haut de chaque conférence, c'est peut-être celle qui est le plus subjecte à voir cette variance évoluer en play-off, et ça peut changer beaucoup de choses dans leur défense.
Tu as tout dit. Je vais enchaîner sur le point suivant. Je rajouterai juste, tu l'as déjà dit, hein, mais quand on voit les équipes sur drive, ou même plus que les équipes sur drive, certains des intérieurs, parce qu'il y a certaines équipes qui drivent moins, mais c'est des équipes où, pour certaines, il y a des joueurs très forts à la finition près du cercle. Je suis un peu terrifié à l'idée de t'aligner avec Jonas Valanciunas et des 5 avec Larry Nance, voir l'espèce de fantasme d'un espèce de 5 small ball dominant qui se fait atomiser. Je lisais un article de The Ringer sur ça, sur les peu de minutes où ils ont joué ensemble, où il n'y a ni Larry Nance, ni Valanciunas. Donc bon, à voir, mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'où l'intérêt d'avoir un spécialiste de l'équipe en question, constant qu'il allait nous trouver des stats vraiment très, très éclaircissantes. On a parlé d'attaque, on a parlé de la défense. Parlons de quelque chose qui concerne les deux. Le clutch. Alors, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on en parle en 4 épisodes du clutch. On en a parlé pour les Bulls. On va en parler aujourd'hui, mais dans le côté négatif. Tu es un peu inquiet pour les Pels dans les moments un peu chauds, c'est ça, Constant?
Ah bah oui, parce que c'est-à-dire que si vous regardez le clutch, alors, la définition, c'est pas qu'elle est floue, mais on va dire qu'elle est un peu arbitraire, la définition d'un match clutch, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est moins de 5 minutes à jouer dans le quatrième quart, 5 points d'écart ou moins entre les deux équipes. Et c'est ce qu'il faut pour qu'un match soit considéré comme clutch par la NBA. Déjà, si vous prenez le nombre de matchs joués dans le clutch cette saison, les Pels sont l'équipe qui ont joué le moins de matchs considérés comme clutch cette saison, ils en ont joué que 24. Le 29e, c'est New York, déjà, et à 27, ça fait 3 de plus. Si vous prenez le premier, c'est Atlanta. Bon, au moins, Atlanta, ils sont divertissants, c'est des matchs serrés. Ils ont joué 41 matchs, ça fait 17, ça fait plus de 33%, plus d'un tiers de supplémentaires. Et si vous prenez un petit peu le net rating, alors le net rating sur des situations de clutch, c'est pas toujours le plus probant, mais les Pels sont quand même 27e au niveau du net rating dans le clutch. Derrière, il y a Miami. Bon, Miami qui va passer premier dans le clutch quand les playoffs vont arriver, ça on connaît.
C'est une année sur deux Miami dans le clutch, bref.
Ouais, bien sûr. Et 29e et 30e, c'est Détroit et Washington. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls qui sont en dessous. Ça, c'est normal, c'est le tanking job. Et si vous prenez juste le pourcentage de victoire, du coup, et que vous sortez un petit peu du net rating, ils sont 21e. Ils ont gagné moins d'un match sur deux considéré comme clutch. Ils sont en 11 victoires pour 13 défaites. Derrière, il y a Atlanta, Houston, Toronto, Charlotte, Memphis, Brooklyn, San Antonio, Détroit, Washington. Quasiment que des équipes qui tankent et les Rockets qui sont un peu dans une situation entre deux. Donc, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est le manque aussi de capacité de shot-making. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Zion en bien dans des situations où c'est serré, où tu dois donner la balle à quelqu'un du côté des Pels. J'ai moyennement confiance sur la capacité de Zion à vraiment aller chercher ce panier qu'il faut absolument. Je sais pas, tu es en match 5, il y a moins 1. Et bah, là, pour le coup, tu peux avoir un mur qui se construit sur la défense et du coup, le drive de Zion qui peut très mal finir. Brandon Ingram a montré qu'il était capable sur certaines séquences de sanctionner, et là aussi j'ai assez peu de confiance. CJ McCollum, on en parlera un peu après, mais là aussi je suis assez sceptique. Il a montré à Portland qu'il était capable, même il y a quelques gros tirs aussi du côté de New Orleans cette saison, dans des matchs serrés ou alors des moments où il va prendre vraiment les commandes de l'attaque. Mais oui, ce manque de shot making m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression que les Pels, c'est l'une des rares équipes, en tout cas dans la conférence Ouest, quand vous regardez le top 8, à qui il y a une certaine incertitude sur dernière possession, il faut un panier, à qui tu donnes la balle. Et pas dans le sens, t'as pléthore de talents, par exemple, comme au Suns, où tu peux te dire, bah, je peux donner la balle à Devin Booker, je peux donner la balle à Bradley Beal, potentiellement, je peux la donner à Kevin Durant. Là, il y a plus une incertitude de dire qui est vraiment capable d'aller me chercher ce panier. Et normalement, tu as plutôt envie de tendre vers ton meilleur joueur, mais comme Zion n'a quasiment que du drive, ou en tout cas que de la finition près du cercle, je suis un peu sceptique. Et du coup, tu t'en remets sur Ingram et sur McCollum, qui sont pas connus pour être des joueurs qui créent la meilleure séparation au niveau de leur tir. Donc, tu te remets sur un top shot maker, sur un tir difficile. C'est ça qui m'embête un petit peu. Et encore une fois, si on prend les confrontations de playoff et si on prend les adversaires potentiels qu'ils peuvent affronter en playoff, bah, Denver, en pourcentage de victoire, ils sont 3e. OKC est 7e, Minnesota est 9e, les Clippers sont ils sont 12e aussi. Donc, ça commence à faire beaucoup de points d'incertitude pour ces Pels.
J'entendais ça dans un podcast, je crois, c'était Real GM, qui parlait de l'importance, en plus des joueurs, d'avoir des sets où, comme on est deux fans de football américain, on va dire que dans des situations précises, les coachs de football américain, ils ont 3-4 jeux qu'ils vont appeler parce qu'ils savent qu'en théorie, c'est le jeu. Si tout se passe bien, je gagne mes 5 yards et ça devrait aller. Voilà. Et j'ai pas assez vu jouer les Pels, mais d'après ce que tu me dis et de ce que j'ai vu des Pels, j'ai cette sensation-là où, contrairement, alors oui, l'exemple ultime, c'est Denver, où ils appellent ils ont leur système et t'as l'impression que avec Aaron Gordon dans le dunker spot, le pick and roll avec Jamal Murray et Jokic, tu as l'impression que c'est deux points assurés. Mais c'est peut-être une sensation, effectivement, que du côté des Pels, il n'y a pas ces 4-5-7 où tu te dis, bon, en théorie, là, on est censé marquer deux points, on est censé obtenir une faute, on est censé avoir, d'après ce process-là, quelque chose de bon à la fin. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas ça. Et effectivement, c'est des situations qui, en play-off, ont tendance à beaucoup plus répéter qu'en saison régulière. En plus, comme tu l'as dit, quand tu n'as pas joué beaucoup de minutes dans le clutch. On a été un peu négatif. On est obligé, c'est le format. Le motif d'espoir, Zion. Tu hésitais à le mettre, tu m'as dit.
C'est juste parce que vous en avez parlé dans le 4 quarts, mais sinon, Zion, je parlais du fait qu'il avait perdu un petit peu tout impact médiatique. Je trouve ça dommageable dans le sens où la saison qu'est en train de proposer Zion, elle est quand même d'un calibre très élevé. Alors oui, il y a eu toutes ces rumeurs au niveau de son poids. Et c'est vrai que même moi qui suis plutôt quelqu'un qui apprécie Zion, je vais pas non plus dire qu'il était dans sa forme optimale en début de saison. Que là, effectivement, il est beaucoup plus fit. Il y a des situations, voilà, vous avez vu face aux Clippers, il monte le terrain en 3 secondes. Il court beaucoup plus vite, il se déplace beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de mobilité, bien sûr. Mais quand même, on est sur un joueur qui a de l'efficacité, marque ses 22 points, commence à devenir un peu plus proactif au rebond. Tu vois, tu parlais du fait justement que l'espèce de small ball ultime avec Zion potentiellement au poste 5, ça marche pas parce que Zion n'est pas un très bon rebondeur pour son poste. Bah là, pour le coup, tu commences à avoir des situations où il va te prendre sa dizaine de rebonds. Allez, au lieu d'être à 5, il va être à 8. C'est jamais un rebondeur d'élite, Zion. Mais pour moi, c'est le motif d'espoir dans le sens où on sait en playoff quand même que ça se joue beaucoup à tes meilleurs joueurs, au niveau de tes meilleurs joueurs. En tout cas, est-ce que tu as potentiellement le meilleur joueur de la série? Et je pense que tu demandais aux Pels, notamment, je salue, je sais pas s'ils nous écoutent, mais French Pelican, qui est un compte FR des Pels, qui lui, à partir de mi-janvier, disait qu'on est first round, disait les Pels sont une équipe first round exit, parce que tu n'as pas ce joueur du top 20 qui peut potentiellement te porter une série. Je trouve qu'avec le niveau que Zion a récemment, tu te rapproches d'un joueur des H20. Alors peut-être qu'il y sera, peut-être qu'il y sera pas, on en reparlera en septembre, mais on est dans une situation où, voilà, on a parlé de ce joueur durant l'enregistrement là tout de suite, mais s'il joue les Wolves, par exemple, au premier tour, sur une match-up 3-6 ou 2-7, je ne suis pas complètement contre, voire même je suis plutôt pour dire que les Pels ont potentiellement le meilleur joueur de la série. Alors je sais que ça va faire enrager certains fans des Wolves, ou je sais qu'il y a une grosse cote d'estime sur Anthony Edwards, mais moi je ne trouve pas ça déconnant que Zion, avec sa capacité à vraiment faire bouger les défenses sur ses lignes de drive et sur la capacité à attirer des défenseurs justement pour construire un mur sur lui, je pense que tu peux avoir 2 semaines potentiellement face aux Wolves où Zion peut être le meilleur joueur d'une série. Alors ça ne se reproduit pas forcément sur toutes les équipes. Face aux Clippers, je suis pas, même si voilà, on sait que les Pels adorent les Clippers, mais face aux Clippers, je suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur. Face aux Suns non plus, face aux Nuggets lol, face aux Mavs potentiellement non plus. Donc pour moi, c'est un motif d'espoir dans le sens où il retrouve son niveau des H20. Je suis curieux de voir les premiers playoffs de Zion aussi, parce que potentiellement, ce sera ses premiers playoffs, vu qu'il les a jamais connus. Mais en tout cas, ce qui monte là depuis le passage au Nouvel An, ça me rassure sur le fait que oui, tu as un joueur des H20 et que du coup, face aux Kings d'ailleurs, ça peut être aussi le meilleur joueur de la série, même si c'est assez peu probable que les deux équipes se rencontrent. Mais ça me rassure sur le fait que tu as quand même un joueur qui est capable de regarder le joueur adverse dans les yeux jusqu'à une certaine mesure.
Non, mais tu as raison. Alors, pour Anthony Edwards, teasing de l'épisode sur les Wolves, parce que je suis le préposé aux Wolves, je dirais qu'il est clivant. Et effectivement, je pense que c'est une bataille qui serait ultra intéressante et où peut-être Zion, vu son état de forme actuel, je pense, aurait l'avantage. Et oui, je pense dans cette théorie, alors oui, on met en avant notre DH20, c'est vrai, mais tu ne peux pas passer un tour de playoff si tu n'as pas un joueur DH20. C'est extrêmement compliqué. En fait, ça n'existe pas. Et l'état actuel de forme de Zion en fait un joueur qui a un très bon dossier pour entrer dans un DH20. Je suis assez d'accord. Du coup, je parlais des Wolves. J'ai revu des images du match contre les Wolves il y a quelques... C'était en début de saison, je crois. C'est quand même n'importe quoi. Il y a 2-3 finishes. C'est quand même scandaleux. Des fois, il arrive à sortir des trucs. Tu parlais de l'état de forme. Moi, j'ai la sensation, c'est le meilleur Zion qu'on a niveau état de forme depuis quoi? Il a une saison blanche, mais...
Il va 21.
Ouais, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu Zion comme ça. Donc, en soi, c'est super intéressant parce que c'est quand même un joueur qui est totalement unique dans le prototype. Donc, on a envie de le voir jouer. Il y a cette curiosité de le voir en playoff, je suis assez d'accord. On va enchaîner par un joueur qu'on a beaucoup vu en playoff avec un succès... Une finale de conf, c'est tout. CJ McCollum, c'est ton joueur clé. On en a déjà un peu parlé. Pourquoi c'est lui? Est-ce que c'est cette idée de la gravité, cette idée selon laquelle c'est un joueur qui doit mettre ses tirs et qui doit avoir cette dose de playmaking en plus?
Ouais, bah déjà, il y a plusieurs choses pour CJ McCollum. Déjà, comme tu l'as dit, 63 matchs de playoff, CJ McCollum. Il faudrait regarder, mais je sais pas combien de joueurs dans l'effectif NBA actuel. Allez, si tu enlèves LeBron et si tu enlèves la moitié de l'effectif de Boston. Parce qu'ils vont en finale de conf tous les ans, si tu enlèves la moitié de l'effectif de Boston. Mais en tout cas, 63 matchs de playoff, ça commence déjà à faire un petit peu de kilométrage pour CJ McCollum, surtout qu'il y a plusieurs campagnes. Alors, c'est des campagnes qui se sont arrêtées prématurément, mais il y a beaucoup d'années où il va en playoff. Et pourquoi je l'ai choisi en joueur? Parce que pour moi, c'est un peu le baromètre de cette équipe des Pels, parce que je vous ai trouvé une stat. Le bilan des Pels cette saison, quand McCollum marque 20 points ou plus, les Pels sont en 21 victoires pour 2 défaites. Quand CJ McCollum marque moins de 20 points, les Pels sont en 15 victoires pour 16 défaites. Et du coup, je cite, alors c'est Ball Don't Lie, mais BOL sur Twitter, ce qui est un compte random, qui a tweeté cette stat-là, mais un insider des Pels l'avait tweeté, mais j'ai pas retrouvé qui l'était. Et en fait, ce Ball Don't Lie est parti chercher sur les joueurs à plus de 10 points par match, quels sont ceux qui sont le plus influencés, enfin, quelle est la plus grande disparité entre pourcentage de victoire et pourcentage de défaite quand ils sont au-dessus de leur médiane, c'est-à-dire à peu près 19 points pour CJ McCollum. Et sur les joueurs à plus de 10 points, McCollum, il est troisième. Le premier qui a la plus grosse disparité, c'est Onyeka Okongwu. Et le deuxième, c'est Bénédicte Mathurin.
Forcément, voilà, c'est Hawks.
Bah, bien sûr, c'est les Hawks. Bien sûr, c'est les Hawks. Et du coup, c'est vraiment le baromètre. C'est un joueur qui est très important. S'il a ses 20 points, on voit que les Pels sont dans les situations de remporter des matchs. Effectivement, la saison de McCollum, elle passe un petit peu sous les radars parce que voilà, ce CJ McCollum, que ça n'a jamais été un joueur très médiatisé, mais je suis allé vous chercher la stat. Au niveau des tirs en pull-up, CJ McCollum, il en a tenté 333 des tirs en pull-up cette saison. C'est le 37e qu'on a tenté le plus en total. Si vous prenez l'EFG, donc le pourcentage de tirs pondéré par le tir à 3 points pour avoir un truc un peu plus équitable, il est premier en EFG de toute la ligue sur les 37 qu'on tente le plus, à 59 d'EFG. Pour vous dire, le deuxième, c'est James Harden qui est à 55,6. Le troisième, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui est à 53,5. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième, il y a plus de 5 points de pourcentage d'écart entre le premier et le troisième au niveau des pull-ups. Donc McCollum, oui, on est dans une saison où il a 43% de réussite à 3 points sur ses pull-ups à 3 points. C'est le premier de la ligue là aussi. Donc c'est un joueur qui est vraiment un peu baromètre de ses pelles, dans le sens où sur des situations qui peuvent être serrées en fin de match, tu as besoin potentiellement d'un CJ McCollum, tu as besoin potentiellement de la capacité de playmaking que peut avoir CJ McCollum sur certaines séquences, on va dire, et effectivement de son volume à 3 points. Et comme j'ai parlé du fait que ça manquait d'options viables en attaque sur des matchs serrés, justement le fait d'avoir un CJ McCollum qui est aussi bon au niveau de son pull-up à 3 points, c'est peut-être quelque chose qui peut débloquer le jeu offensif des Pels dans des matchs serrés et qui peut créer, on va dire que c'est pas celui que tu t'attends le plus. Au niveau des Pels, quand tu fais le scouting, tu vas scouter essentiellement Zion, essentiellement Brandon Ingram, mais CJ McCollum peut débloquer cette attaque des Pels et leur permettre de passer à un autre niveau. Et tu peux avoir, comme ce qu'a eu CJ McCollum face aux Nuggets en 2019, tu peux avoir 2 semaines de CJ McCollum où il est très bon, et du coup ça peut faire tourner une série du côté des Pelicans.
55e en termes de matchs joués, je l'ai cherché pendant que tu parlais, 55e en termes de matchs joués en playoff parmi les joueurs actifs actuellement en NBA. Donc c'est pas mal. Alors, sachant que d'après StatHead, Blake Griffin est un joueur actif, tout comme Danny Green. Donc bon, il y a peut-être tout comme Serge Ibaka. Donc bon, il y a peut-être
Il y a pas Marc Gasol pourquoi?
Donc il y a peut-être un ajustement, mais en tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, je suis d'accord.
Est-ce qu'il y a Dwight Howard?
Peut-être, en vrai, je devrais même chercher. Ça se trouve il serait plus haut, je pense peut-être. Bref, en tout cas, est-ce que tu as pas juste peur? Il y a pas Dwight Howard, je viens de vérifier. Est-ce que tu as pas juste peur? Alors on fait plus long. Ça sera la première itération de CJ McCollum en playoff sans Damien Lillard. Est-ce que tu n'as pas juste peur que, vu que c'est un des joueurs qui a cette capacité de pull-up, que n'ont pas forcément d'autres joueurs à 3 points l'effectif, qui ait beaucoup, beaucoup de pression sur lui en termes des défenses adverses? Parce que les défenses adverses, ça fait en gros que si tu bloques le pull-up de McCollum à 3, il y a peu d'autres solutions. Si en plus Ingram et Zion sont pas leur zone préférentielle, quoi.
Ouais, après, c'est pas les premiers playoffs de McCollum sans Lillard, puisque 2021-2022, ils vont en playoff. Ils jouent les Suns au premier temps.
Oui.
Mais justement, c'était sans Zion et McCollum arrivait en cours de saison en plus, et c'est la série face à Phoenix où là, pour le coup, il y avait eu un très bon Brandon Ingram qui avait été très intéressant.
C'est n'importe quoi, c'est trop tard. Il est beaucoup trop tard.
Non, mais après, tu vois, justement, tu parlais du fait que est-ce que les défenses peuvent bloquer le pull-up à 3 points de McCollum tout en ayant Zion et Ingram qui ne sont pas dans leur zone préférentielle. Justement, je trouve que ça va être très difficile de stopper les deux en même temps. C'est-à-dire que si CJ McCollum est en manque de réussite sur ses pull-ups, bah, les défenses peuvent potentiellement moins le défendre et être plus concentrées sur la protection de cercle face à Zion. Par contre, si d'un côté, tu manges un peu ce que mangent les équipes adverses toute la saison, c'est-à-dire 20-25 points parce que les minutes vont augmenter de CJ McCollum à une haute efficacité au tir, bah là, pour le coup, ça va être très difficile de contrer d'une part McCollum tout en évitant trop de se découvrir sur les lignes de drive pour potentiellement profiter à Zion. C'est justement, on en revient sur le premier point, c'est que, ok, il y a le pull-up, mais même sur des situations où tu as Zion qui drive et qui kick out pour CJ McCollum, l'adresse de CJ McCollum, s'il reste aussi élevé, ça va être aussi une problématique en play-off. Donc, à voir comment tu l'intègres, je pense que le point sur lequel tu peux peut-être un peu plus intégrer CJ McCollum, c'est plus défensif, dans le sens où quand tu regardes le 5 majeur des Pels, bah finalement, hormis faire sortir un petit peu Valenciunas pour jouer sur des lignes de drive, bah c'est un peu McCollum que tu vas cibler potentiellement, je sais pas, sur du post-op, si jamais tu es une équipe comme les Kings, l'impliquer sur du pick and roll, peut-être avec des joueurs de grande taille, si t'es Denver ou surtout si t'es Phoenix. Donc, pour moi, c'est plus défensivement où il y a quelques limites et qu'on a vu certaines limites de CJ McCollum durant les années à Portland. Où défensivement, le backcourt avec lui et Damien Lillard, c'était difficile. Après, il a la chance d'avoir potentiellement le meilleur défenseur sur un point of attack à l'aile. Donc, ça aide bien.
Terminons par le plancher et le plafond. Constant. Plancher, plafond. Les équipes, on est sur le prototype. Ces équipes vont être extrêmement difficiles à... pour les équipes pour lesquelles le plancher et le plafond va être extrêmement difficile à déterminer, ces équipes qui sont un peu au-dessus du play-in, mais qui sont pas quand même favoris dans leur conférence, etc. Est-ce que on va démarrer par le plafond, parce que je pense que c'est plus intéressant. Est-ce que tirer jusqu'à dire que leur plafond, c'est une finale de conf?
Ça dépend du parcours, en fait. Ça dépend du tableau. Parce que là, si la saison s'arrête maintenant, il y a Rudy Gobert qui a chopé le Covid, la saison s'arrête, les classements sont figés. Match-up 4-5, Clippers-Pels. Bon, on connaît la pétence qu'ont les Pelicans pour jouer les Clippers, que ce soit cette saison ou que ce soit les précédentes années. Potentiellement, ils peuvent passer un tour. On ne sait jamais, les Clippers, ce n'est pas non plus une machine qui est très bien huilée depuis le retour de break. Il y a toujours les incertitudes au niveau des blessures du côté des Clippers. Admettons.
Depuis toujours, pas huilé, les Clippers. Hein, mais bref, vas-y, Constant.
Non, mais non. Janvier-février, c'était quasiment la meilleure équipe NBA. Enfin, il y a deux mois
où ils
sont...
Mais à cette période de l'année, en général, ça...
Voilà, plus. À peu près. À peu près. Et du coup, imaginons, ils passent les Clippers. Si tu restes comme ça, tu joues le vainqueur du 1 contre 8. Donc, ce serait OKC contre Sacramento. Je vous laisse décider de quel est le vainqueur. Mais dans les deux cas, je ne suis pas étonné si les Pels parviennent à remporter la série. Disons que sur ce parcours-là, peut-être, si jamais tu te retrouves à jouer Denver en demi-finale de conférence, c'est un peu plus compliqué. Je pense que pour moi... ils ont leur chance face aux Clippers, ils ont leur chance face aux Wolves. Deux match-ups qui sont vraiment différentes. Mais je pense que d'un côté, ils peuvent appuyer sur le manque de protection de cercle des Clippers et de l'autre, ils peuvent appuyer sur le fait que la création sur demi-terrain des Wolves est quand même assez catastrophique. Et en plus de ça, tu vas avoir le luxe d'avoir Herb Jones sur Anthony Edwards qui, avec la blessure de Karl-Anthony Towns, est un peu le seul moteur offensif de ces Wolves. Donc ouais, pour moi, plancher, c'est une équipe qui potentiellement... first round d'exit qui peut se manger 4-1 au premier tour, hein, on va pas se mentir non plus, qui peut, avec la blessure d'Ingram, qui peut descendre, qui peut se retrouver 8e et qui potentiellement va jouer le premier, qui peut être Denver et peut se prendre à 4-1. Et au niveau du plafond, ouais, c'est une équipe qui, allez, on va être réaliste, pour moi c'est une équipe qui peut passer un tour, deux ça me paraît quand même trop exagéré, ça manque de si Zion était 10e du DH20, je te dirais qu'ils peuvent passer deux tours. Là, ça me manque quand même un petit peu de star talent, mais ouais. Pour moi, tu es entre le first round exit et la demi-finale de conférence où tu te bats face à l'autre équipe en demi de conf.
Je serais plutôt d'accord. Pour l'instant, j'ai été dans tous les formats et j'essaie quand même d'être Pour ce qui est du plancher, j'essaye d'avoir raison gardée, donc je vais dire deuxième tour, un deuxième tour accroché de playoff. Plancher, alors sans être négatif, le pire scénario qui peut leur arriver actuellement, c'est de perdre, faire une série de défaites et sortir au play-in, mais bon, ça semble peu probable, mais ça serait le pire scénario à l'heure actuelle. Je pense que niveau stylistique, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est tellement une équipe particulière avec un Zion qui fatigue. Moi, c'est... Alors, je sais, c'est un peu un lieu commun qu'on dit pour toutes les équipes, mais j'aimerais pas choper cette équipe au premier tour ou au deuxième. C'est une série chiante. Tu prends Zion pendant 5-6 matchs constamment pour ton secteur intérieur, etc. C'est embêtant. Je pense que c'est embêtant, mais tu l'as dit... Moi, c'est le playmaking. C'est un point qu'on n'a pas trop abordé, mais moi, je suis un peu terrifié par leur manque de playmaking sur des matchs où ça fait 8 saisons de Dunk Hebdo en playoff. J'ai l'impression que le mot playmaking, on devrait faire une analyse des textes, mais plus tu montes dans les modes en playoff, plus tu avances, plus on passe de passing, plus on parle de connecteur, de playmaking, de passing. Donc, c'est le truc qui me gêne un peu, mais je reverrai le même destin. Eh bien, voilà, Constant. On a réussi. On s'approche dangereusement des 40 minutes. Là, c'est de ma faute. J'ai trop parlé. Mais
non, c'est moi. C'était sûr. Hein, c'est vrai. Je suis dans les épisodes. Voyez, regardez le compteur. Et puis, alors, quand ce sera OK ici, je vous raconte pas. Attention.
Ouais, en vrai, ça va être variable. Après, les auditeurs pourront nous. Ces équipes, je pense, Pelicans, Magic, que tu as aussi, d'ailleurs, qui est d'autres, Knicks. Il y a des équipes pour lesquelles tu es obligé de plus parler. Parce que c'est vrai que si on avait listé tous les problèmes structurels des Hawks et des Bulls, le podcast aurait fait 8 heures peut-être. Donc là, c'est sur ces équipes-là où il y a des questions qui peuvent passer en haut de tour. C'est forcément là où on sera les plus longs. Eh bien, merci Constant. En tout cas, voilà, te voilà défaussé, comme nous tous, d'une première équipe. On continue dès demain. Alors, normalement, demain, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème d'enregistrement au niveau montage, etc., je ne serai pas là et on parlera du Heat. On revient à l'Est, on fait des allers-retours entre l'Est et l'Ouest. Heat, alors, la séquence plancher-plafond du Heat, ça risque d'être marrant quand même, parce que là, ça va être un grand moment. En tout cas, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça, j'aurais dû le faire dès la première. À laisser un commentaire en nous disant quel est selon vous le plafond ou le plancher de l'équipe en question. Nous, on se repose un peu, puis on se retrouve dès demain. Merci Constant et à demain. Salut.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.